Nous allons donc continuer notre développement concernant les guerres que le peuple d'Israël mène durant son histoire. Et nous sommes arrivés à la conclusion que depuis l'apparition de notre peuple dans le monde, dès que la Ségoula, que l'identité, que la capacité de ce peuple a été dévoilée, eh bien, automatiquement, arrive en face d'elle une force qui bloque. Vous savez que ce phénomène arrive dans tous les domaines et dans toutes les fêtes. Dès qu'il y a une fête dans le calendrier hébraïque, il y a une force contradictoire qui va se placer face à cette fête-là. Exemple, si par exemple nous attendons Pourim et que nous allons rentrer dans Pourim, eh bien Pourim ne va pas venir seul. Il va venir avec sa force contradictoire. Et chaque fête, chaque événement, chaque élément vient avec la force qui va essayer de casser le système de la Kedusha. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le système de ce monde. Donc, il va y avoir la lumière, donc Pourim, il va y avoir la klipa, l'écorce, qui va bloquer cette lumière, qui va essayer en tout cas de la bloquer, et cette klipa va s'appeler Amalek. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a l'antithèse de la chose. Donc il y a une thèse, il y a une antithèse, et moi je dois gagner, combattre cette antithèse pour sortir l'essence même, la quintessence, la lumière de l'élément que je suis en train de traiter maintenant. Si je n'ai pas de force en face contradictoire à ce que je suis en train de faire, en réalité, je n'ai pas de combat, donc la lumière que je vais recevoir, elle va avoir la couleur d'un cadeau. Et dans la Torah, nous disons « Sonne matanot yichye ». Celui qui veut vivre réellement doit haïr les cadeaux, c'est-à-dire que tout ce qu'il a dans sa vie, c'est parce qu'il a travaillé pour l'avoir. Ce n'est pas quelque chose qui lui vient gratuitement. Ok ? Oui.
À chaque fois, cette contradiction qui va venir, c'est quand même.
Non, j'ai dit Pourim, j'ai donné un exemple.
Non, c'est juste pour ça. C'était
Hanouka, maintenant toi qui as posé la question, ouais. C'est qui la force contradictoire ?
Les Grecs.
Il y a fait, c'est tout. Tu compris le principe. Okay. Tu as compris comment ça marche ? C'est tout. Donc chaque fête a sa force contradictoire.
Je comprends pas comment aujourd'hui il y a une...
Je comprends pas comment aujourd'hui il y a un Grec qui peut venir.
Ouais, c'est ça.
C'est une mentalité.
Ah, c'est
pas abstrait du tout.
Est-ce que ça prend...
C'est pas abstrait du tout. Ça peut prendre la forme de n'importe quoi. C'est-à-dire que le fait que tu ne comprennes pas l'essence même de ta vie et que tu ailles voir des éléments que tu absorbes des nations du monde, ça s'appelle être grec. C'est pas abstrait du tout. C'est très concret.
J'apprends à être juif influencé par le grec.
Et c'est la même chose. C'est ça la klipa. C'est ça la klipa de Yavan. Donc, il va falloir que tu fasses un tri dans ta vie pour sortir du grec qui est en toi et revenir à Israël qui est en toi. Et chaque élément, c'est comme ça. Pour sortir d'Égypte, il fallait combattre par haut. Sinon, tu rentres, comme tu dis dans la Haggadah, si on n'était pas sorti, on s'est aujourd'hui assujetti à Paro, nous et nos enfants et nos petits-enfants, phrase de Shalom.
Il y a un objectif personnel à atteindre avant chaque fête, en fait ?
Il n'y a pas un objectif personnel, il faut d'abord un objectif collectif,
okay.
Et dans cet objectif collectif, il va y avoir aussi ton degré à toi au niveau personnel. D'accord ? Ça veut dire que toi-même, tu vas avoir... Le lien, tu auras gagné quelque chose dans ce combat. De quoi ? De ce que tu vas gagner toi ?
Non, de qu'est-ce que je dois combattre, par exemple, quand il y a une telle fête qui arrive ?
Pourim va arriver. On prend l'exemple de Pourim. D'accord ? Pourim va arriver. Il y a une force de Amalek. Amalek, c'est les doutes.
Les doutes.
D'accord ? Il faut comprendre l'ennemi. Il faut l'étudier. Dans l'armée israélienne, on te demande de connaître ton ennemi avant de sortir, de te battre. Si tu ne sais pas comment il fonctionne dans sa tête et quelles sont ses techniques et ses tactiques de guerre, il va savoir. Donc il faut que tu étudies l'ennemi. tu dois devenir intelligent et réfléchir comme lui. Qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place? Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Une fois que tu commences à l'étudier, voilà. Donc, il va falloir que j'étudie la Klipa de Pourim. La Klipa de Pourim, je sais que c'est Amalek. L'histoire me la raconte. Haman, tout le reste. Qu'est-ce que c'est le but de toute cette histoire? Ken? Non, c'est pas seulement une destruction. C'est beaucoup plus fort que ça et beaucoup plus lointain que ça. Parce que c'est pas venir vous tuer, c'est pas ça qui était le but de Pourim. Non, c'était de vous empêcher de monter en terre d'Israël. C'était ça Pourim. Parce que c'était la construction du deuxième temple. Et le pharaon de l'époque, qui n'est plus le pharaon, ça devient Achashverosh, il a un Haman à côté de lui et il dit, ça y est, ils sont morts, ils sont foutus. Pourquoi? Parce que leur temple, soi-disant, c'était 70 ans d'exil. Voilà, les 70 ans, selon mon compte à moi, sont passés. Maintenant, le Beth Amikdash, il est où? Là-bas, chez eux, en Perse. Donc, on va prendre tous les éléments du Beth Amikdash, qui devait être à Jérusalem, et on va s'en servir, on va faire un grand festin, on va boire avec tous les instruments du temple. Et moi, le grand roi, je vais m'habiller en qui?
En
Kohen Gadol. Maintenant, traduis ça dans ta vie à toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un jour, Chas Veshalom, tu te dis, Akados Baruch Hu, il s'est foutu de moi, et comme rien ne se passe, de toute façon, toutes mes tchilotes, elles n'arrivent nulle part, j'en ai marre de tous ces trucs, on m'a rentré dans un système religieux, je ne reçois rien, c'est que du vent, c'est n'importe quoi, le doute commence à t'installer, et tu te dis, écoute, c'est moi le roi. Arrêtez de croire que c'est lui le roi, c'est moi le roi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, de facto? Ça veut dire que tu vas commencer à vivre, tu te dis, moi je fais ce que j'ai envie dans ma vie, il n'y a plus personne, laissez-moi tomber de la Torah, des mitzvot et de toutes ces valeurs. Voilà. Donc tu vas rentrer à Pourim, au lieu de profiter de la journée et de prendre l'énergie qui s'y trouve, parce qu'il y a une force dans cette journée, qui est un élément extraordinaire, Recha de Laït Yeda, eh bien tu vas t'arrêter à un premier niveau très 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 bas où tu vas te déguiser. C'est tout. Tu n'auras rien compris à la journée. C'est facile à tromper les gens. Tu leur sors de beaux déguisements, c'est fini, ils ont l'impression qu'ils ont fêté pour eux. Hanouka, tu leur donnes des beignets, c'est fini, ils sont tranquilles. Il faut comprendre le secret des choses. Donc tout notre calendrier et tous nos guerres, c'est exactement la même chose. Et là, le Rav est en train de nous mettre en place toutes les guerres d'Israël. Pourquoi? D'où est-ce qu'elles sortent? Mais c'est tout simplement pour éteindre la lumière divine qui nous anime. Pour nous séparer de ça. Et donc, quand tu sors en guerre contre un ennemi qui existe, à Gaza, c'est pas seulement contre cet ennemi physiquement parlant que tu sors en guerre. C'est contre ce qu'il veut annuler chez moi. Alors on va prendre un exemple. Qu'est-ce que cet ennemi aujourd'hui à Gaza, en me lançant des bombes et des ballons explosifs, veut annuler chez moi? Non, vous êtes encore au niveau personnel. La souveraineté d'Israël sur sa terre. Il ne veut pas qu'il y ait un état d'Israël sur sa terre. Vous êtes trop au niveau individuel, les mecs.
Il y a une conscience d'une importance dans l'état. Et puis on voit ça, et qu'au fur et à mesure, la Keïla, elle commence à buter, il y a un sale doute au niveau de la nation.
Mais c'est d'abord au niveau de la nation. Après, ça pénètre au niveau individuel. Mais si toi, tu fixes que le combat, c'est pour que toi, tu te renforces, ça suffit pas. Tu as compris ce que je suis en train de te dire?
Quel? Quand on dit qu'il faut étudier Amalek, il faut étudier Amalek dans son présent, dans notre rapport avec Amalek, qui nous tue à nous.
Tout ce qu'il peut te faire de mal, et quel est le bien qu'il y a en lui que je dois voler?
Ça fait du bien.
Ben voilà. Sinon il n'aurait pas été là. Quel est le bien? Par exemple, je te pose une question. À quoi ça sert d'être rentré en Égypte? Au moins, au minimum. Quoi? Dis. Non, presque. Exactement, tout simplement pour en sortir. T'as compris? Pas du tout. Parce qu'il y a ici un travail que tu n'aurais pas eu l'expérience si tu n'étais pas tombé. Donc, tu es tombé en Égypte, c'est une volonté de l'infini pour que tu apprennes une certaine leçon, ne serait-ce que pour savoir sortir. Vous comprenez que ça va loin, hein? Quel?
Vous avez dit que lorsque les nations génies nous trouvent en guerre, parce qu'elles vont nous prendre quelque chose qui nous appartient, qui est éternel, c'est ça?
J'ai pas dit ça, j'ai dit que j'ai donné un exemple précis de nos ennemis dans la frontière qui nous balancent des bombes. Je suis très précis, très clair dans ce que je dis. Je l'ai dit aussi très clairement. C'est qu'ils veulent plus qu'on soit souverain, c'est-à-dire qu'on n'est pas un État, qu'on soit nous les maîtres de cet État d'Israël. C'est tout. Pour annuler l'État d'Israël.
Et en général, alors...
Si tu étais un juif sans État, ça ne les dérange pas grand chose. À partir du moment où tu es un État, là, ça commence à les déranger. Voilà. Alors, on va continuer maintenant. Donc, qu'est-ce que c'est en réalité toute la philosophie de l'Égypte? Rappelez-vous, qu'est-ce que c'était la philosophie de l'Égypte de laquelle il fallait sortir?
La disparition d'identité.
Bien fait. Disparition de l'identité d'Israël. C'est-à-dire, nous, on voulait faire apparaître quoi en la sortant en sortie d'Égypte? Non, la nation d'abord. Maron, qui va elle dévoiler le divin? Mais si tu annules la nation, si tu la tues avant qu'elle sorte, eh bien, tu as tué tout ce système. Maintenant, imagine-toi que toi et moi, on est à la sortie d'Égypte. Si tu penses à tes intérêts à toi maintenant, privés, personnels, ton compte en banque, ta petite copine, ton repas de ce soir, ça marche pas. Tu vas pas en avoir envie de sortir. Tu vas te dire, attends, je vais pas me prendre la tête. Je sais même pas où il m'amène, ce Moshé, je sais même pas ce qu'il est en train de me faire, je comprends rien du tout à son histoire. Mais t'as bien. Quatre cinquièmes ont pensé comme ça. Parce qu'il n'était pas dans le tout. Mais si je viens et je te donne un cours avant et je te dis, oh, tu sais quand on est en train de sortir là, c'est pas toi, on n'est pas en train de te sauver toi et ta famille et moi et ma famille. On est en train de mettre en place le peuple d'Israël. Ça change tout. Comprenez? Les soldats d'Israël, avant qu'ils rentrent à l'armée, c'est ça qu'ils doivent étudier. C'est pour ça qu'on les envoie dans des mechinot, Ktam Tzvaïot. Vous, avant de rentrer à l'armée, il faut que vous sachiez ce que vous allez un jour faire là-bas. Si c'est juste pour avoir une arme et faire le beau et prendre des photos pour envoyer tes copains en France, t'as rien compris le mec. Donc la philosophie de l'Égypte ancienne, c'était en réalité une prise de conscience matérialiste de quoi? De cercle. C'est-à-dire que tout le monde est naturel, qu'on ne peut pas dépasser la nature. Personne ne peut dépasser la nature. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux ou c'est vrai? C'est faux? Donne-moi une preuve que c'est faux. Qu'on peut dépasser la nature. Alors dis-moi, donne-moi une preuve. Exactement, tout simplement la sortie d'Égypte. Encore autre chose, on va aller maintenant dans le niveau individuel, on va dire. Abraham Avinu, quand Akadosh Baruch Hu, il lui dit, va yotse oto akutsa, il a fait sortir. Il a fait sortir de quoi? De Satan? Va yomer lo spor akochavim im tucha lispor otam ko yeya zaracha. Va yotse oto akutsa.
Il
a fait, mais Drachi sur place, qu'est-ce qu'il dit? Il a mis au-dessus de ses astres, au-dessus des mazalotes, au-dessus de la nature, en lui disant, tu peux changer ta nature. La preuve, jusqu'à maintenant, toi Abraham, tu ne peux pas avoir d'enfants. Mais maintenant, avec ce que je viens de te faire, tu auras des enfants. Abraham n'avait même pas la possibilité d'avoir des enfants. Sarah n'était pas construite pour avoir des enfants. Et pourtant, ça marche. C'est ce que je suis en train de te dire. Il y a un élément qui te permet. Ça, c'est déjà la base. Maintenant, qui va sortir de ce Abraham? Le peuple d'Israël. Voyez loin, regardez loin. Donc, le peuple d'Israël, dans sa nature, il est capable de quoi? De dépasser la nature. Voilà ce qu'on est en train de nous dire. Pourquoi tu crois que tu fais autre chose par l'intermédiaire de qui? Mais oui, mais pourquoi il ne le fait pas pour une autre nation? Pourquoi il t'a fait sortir à toi d'Égypte et il a laissé les Égyptiens en Égypte? Tu t'es pas posé la question? Ben, tout simplement parce que j'ai un rôle à jouer dans l'histoire en tant que peuple qui est révélateur du nom de Dieu. Et les Égyptiens n'ont pas cette capacité en eux. Donc je dois jouer un rôle, c'est tout. Donc il m'a sauvé à moi, il m'a sorti à moi. Quel?
Mais les sorciers, ils sortaient de la nation, non, en Égypte?
Qui?
Les sorciers en Égypte.
Non. C'est ça justement le lien. Ma krishpa malia shel mal, qui chauffe, c'est pas une réalité. C'est tout simplement éteindre certains degrés qui te paraissent comme une allusion en réalité. Et ce n'est pas une réalité. Donc ils sont limités quand ils arrivent à quelque chose, par exemple, la grandeur d'un grain de blé. Ils ne peuvent pas faire quelque chose de plus petit. Donc au niveau des poux, ils sont devenus fous, et ils ont dit c'est le doigt de Dieu, ça c'est sûr, c'est pas de la sorcellerie, puisque nous, les sorciers, on sait qu'on ne peut pas créer une créature plus petite qu'un grain de blé.
Ils faisaient pas de destruction naturelle?
Non. Ça, c'est une illusion d'optique.
Alors, Moshé, il est stérile.
Okay.
Donc, est-ce qu'on pourrait dire aussi que les gens qui sont de Ishmaël, ils ont dépassé la nature?
Mais c'est pour ça qu'après, il y a encore l'entonnoir qui se resserre. C'est pas tout Abraham, c'est une partie de lui. C'est-à-dire, Yitzhak. Et pas Ishmaël. Et c'est pas tout Yitzhak, c'est Yaakov. Et pas Esav. Tu comprends comment ça marche? C'est un entonnoir, mais quand ça arrive à Yaakov, ça y est, c'est Israël. C'est nous. Il fallait faire un tri, jusqu'à ce qu'apparaisse le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Ok? On continue. Asher Mouvana Mafnini Aya Shi'abud Mouchlat Shel Ruach Adam Bichlalo. Donc, qu'est-ce que c'est que l'idée profonde de cet ennemi? Maintenant, on parle des guerres d'Israël. Donc, voilà une guerre d'Israël contre l'Égypte, contre la mentalité égyptienne. C'est quoi? Eh bien, c'est d'assujettir ton souffle de vie, te rendre esclave de quoi? Kavle Ateva. Les cordes, les câbles de la nature. Autrement dit, tu dois te dire, c'est ce qu'ils veulent les Égyptiens. De toute façon, c'est comme ça, hein, je suis comme ça. Est-ce que ça vous est arrivé de parler comme ça quand on vous dit ben, essaye de faire comme ça, tu dis je peux pas, je suis comme ça.
Ouais.
C'est ma nature. Okay. Alors ça, c'est rester en Égypte. Vous comprenez? Quelqu'un qui dit oui, je vais faire un effort, je vais dépasser. Et non pas parce que ça m'a gêné, parce que quelqu'un est venu me faire un reproche, alors pour lui répondre tout de suite, je lui dis, mais t'es pas content, c'est pareil, je suis comme ça. Mais non, je peux peut-être changer, tu as raison. Il faut que je fasse un effort sur moi-même et changer, surmonter un attribut que je crois être naturel chez moi. Et ça, c'est plus dur. Si on arrive à faire un truc comme ça dans la vie, c'est plus dur que toutes les mitzvot que tu as faites dans ta vie. Ça veut dire de changer une trouna, une mesure qui n'était pas bonne chez toi. Tu étais radin, tu es devenu généreux. Si tu arrives à faire un truc comme ça dans la vie, c'est déjà énorme. Quelle? Laquelle? C'est ce que je viens de dire. Puisque nous avons une expérience de la Torah qui nous dit que le peuple d'Israël peut sortir de la nature. Donc je vous ai donné la preuve d'Abraham. La deuxième preuve, c'est la sortie d'Égypte.
On ne peut pas dire si on veut, par exemple, qu'il était par exemple avant radin et après il devait générer.
Au niveau individuel, oui. Mais pas au niveau collectif de la nation. C'est là? Il a fait. Donc tu te dis, je peux pas, c'est comme ça, je suis comme ça, c'est ma nature, tu me prends comme je suis. Ou leit alot me'al mugbaliuto hamedaka. Parce que si tu n'arrives pas à sortir de ça, c'est que tu es limité dans ta vie, et en réalité tu vas tomber dans une forme de dépression, parce que tu n'arrives pas à dépasser cette mauvaise vertu qui est en toi. Donc l'Égypte, c'est très sympathique, mais qu'est-ce que c'est que l'Égypte de notre temps? Elle est où l'Égypte de notre temps? Elle existe encore ou pas? Mais tout l'Occident vit aujourd'hui, par la philosophie, par les mathématiques, par la science, parce que cette civilisation a puisé ça où? En Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte, c'est le berceau de tout le monde occidental que vous connaissez aujourd'hui. Donc tout le monde maintenant, tu vas aux États-Unis, tu vas en Europe, tout le monde est un Égyptien des temps modernes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans leur contexte naturel. Vous connaissez bien Madame Soleil, okay ? Lundi, verso, ne sortez pas, restez chez vous, balance, vous aurez une journée magnifique. Vous êtes coincé dans un système. Qui est le premier des astres ? Bélier. Bélier. D'accord ? Quel est le dieu d'Égypte ?
Le bélier.
Maintenant, vous comprenez pourquoi. Donc, en fait, l'Égypte servait quel dieu ? Les astres, le temps. Comment ça s'appelle en hébreu ? Oved, Kochavim, qui sert les étoiles. Ve'aola, malach, ve'shaka, ve'marchako, chomrani. Comment est-ce qu'on voit aujourd'hui les influences de l'Égypte sur le temps moderne? C'est que les gens pensent à quoi toute la journée?
À l'argent.
Exactement. À la matière, à l'argent, au monde matériel. Il n'y a plus que ça qui compte. C'est tout. Ça vient de l'Égypte. L'Égypte était tellement dans ce système qu'elle a inventé des phénomènes extraordinaires. Par exemple, en Égypte, on pouvait garder une pomme pendant des années. Alors qu'aujourd'hui, la pomme, elle pourrit. Vous savez comment ? En construisant les pyramides. Si tu mets une pomme à l'intérieur d'une pyramide, à un endroit bien précis, sous la pointe, eh bien, cette pomme, tu la poses comme ça, elle peut rester 10 ans, elle ne pourrait jamais. Parce qu'il y a une certaine énergie au niveau de la nature qui garde les degrés de la chose, les propriétés. Avec les hommes, ils n'ont pas réussi, mais ils ont essayé quand même de les momifier pour garder la matière. Ils les enterraient avec leur richesse. Vous comprenez toute cette mentalité? Ça veut dire, je vais vous le traduire maintenant, j'en ai rien à foutre, même si je crève, je veux crever avec mon fric. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, on te met dans le cimetière, avec ton argent, avec tes beaux vêtements, avec tout ce que tu t'es battu toute ta vie pour avoir, je sais pas quoi, une Porsche, machin. Ça, c'est tout ce qui t'intéresse.
Ils ne se rendent pas compte, eux, qu'il y a un manque d'intérêt pour eux.
Il y a fait. Ça, c'est la fin des temps. Ça, c'est ce que Israël, ça, c'est ce que toi, moi et lui, on doit faire maintenant dans le monde. C'est leur dire, mais vous vous rendez compte qu'il vous manque quelque chose? Vous ne voyez pas que vous avez un problème de corps seulement et qu'il vous manque une âme à tout ça? Vous allez mourir de votre propre système.
Pardon, si les égoïnes ne peuvent pas aller au-delà de la nature, parce qu'ils ne peuvent pas aller au niveau de leur essence.
Quel? Ils n'ont pas besoin. Parce que Israël, qui va être le représentant de ce hors-nature, pourra faire bénéficier le monde entier de toutes ses forces. Ils n'ont pas besoin. Je le laisse dans la nature, au contraire, c'est ça, priorité à lui. Un japonais, je ne vais pas le rendre Israël, je vais le laisser japonais, parce que c'est là où il excelle. Il n'a pas besoin de dépasser sa nature. S'il a besoin de quoi que ce soit, par exemple, d'un phénomène qui va le rendre heureux, c'est moi, représentant Israël, qui devait dépasser sa nature, ma nature, pour lui. Tu comprends? Ça veut dire que si je prie maintenant, et que je transforme, et que j'arrête une maladie maintenant qui se trouve dans le monde, parce qu'Israël est capable de changer ce système qui naturellement ne peut pas arrêter, mais par quelque chose de surnaturel peut-être, Israël peut arrêter ce phénomène-là, eh bien j'ai fait du bien à l'humanité. Sans que l'humanité sorte de sa nature. J'ai pas parlé au niveau individuel. Tu répètes ce que j'ai dit tout à l'heure. Au niveau individuel, c'est possible. Ça veut dire, il est possible que 10 Chinois montent à un niveau de prophétie. Tu comprends? Mais un peuple prophète, c'est Israël. C'est-à-dire, qu'est-ce?
Si quelqu'un il se débarrasse d'une chronatia, il ne risque pas de faire le côté positif de ça?
De quoi s'il se, il dépasse
par exemple, quelqu'un, il a de la colère.
Okay.
Il l'utilise aussi pour du bien.
Okay.
Il efface sa colère, ça ne va pas enlever le côté positif de ça.
C'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas se débarrasser en se débarrassant, en la jetant à la poubelle. Il faut se débarrasser d'une manière intéressante, intelligente. Il faut utiliser l'énergie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais avec Amalek? Je vais chez lui et je prends le bon qui est en lui. Donc j'ai déjà répondu. Pourquoi vous posez des questions sur ce qui a déjà été mis en place? Parce que vous n'écoutez pas ce que je suis en train de vous dire. Ralentissez un petit peu vos questions. Vous êtes tellement pressé à poser des questions que vous n'êtes pas dans le cours. Écoutez un petit peu plus. Soyez un petit peu plus à l'écoute. Yetziat Mitzrayim, Alken Aïta Aviv Shel Kol Haolam. Donc la sortie d'Égypte, elle joue le rôle de quoi? D'un printemps. C'est le printemps du monde entier. Parce que le monde entier maintenant voit que une nation, un jour, a dépassé la nature. Donc c'est possible. Ça suffit à l'humanité. Quel est un représentant qui est capable de faire ça? Et qui c'est ce représentant? Le peuple d'Israël. C'est tout. Donc on est devenu en fait un exemple de libération de toute forme d'esclavage dans le monde. C'est ce que dit le Rav Kook dans Emare Areaya, dans Gmeged Irachim, à la page 501. Mipne, shepo paratsao, parce que c'est là-bas, pour la première fois depuis que le monde a été créé avec ses lois naturelles, que quelque chose est allé hors nature.
Dans l'Israël actuel, vous parlez ? Dans l'Israël actuel ?
Quel changement ? On est toujours les mêmes.
Non, puisque aujourd'hui, on suit quand même une démocratie qui ressemble à beaucoup d'autres pays.
Mais je ne parle pas maintenant de l'application. Je parle de la capacité. Tu appliques dans ton portable même pas 10% de ses capacités. Tu ne les utilises même pas, mais ses capacités, elles sont dedans. Les capacités d'Israël n'ont jamais changé, elles sont là. Le fait que toi aujourd'hui et moi et l'autre ne les utilisons pas, c'est notre problème. Mais je suis en train de parler de la capacité de base. Donc on a prouvé au monde que la lumière va jaillir. De l'eau, un élément liquide. Sa nature c'est de couler. Eh bien à la sortie d'Égypte, cette eau s'est mise comme une muraille pour que je puisse passer. Mais où j'ai vu une chose pareille? Vous comprenez le message? C'est-à-dire la nature se met au garde à vous parce que Israël passe. Et qu'est-ce qu'il fait en passant? Il révèle Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc n'ayez pas peur. Quand le Baal Shem Tov, et là je vais utiliser un élément entre guillemets personnel, quand le Baal Shem Tov traversait un fleuve en marchant dessus, il mettait sa ceinture et il marchait. Faisait du surf sur sa ceinture. Vous croyez qu'il se posait des questions? Tout simplement, il devait aller de l'autre côté. Il ne se pose même pas de questions. Hein? Encore une fois, un jour, on a dit à un petit malheureux, ah, tu nous poses trop de questions, va chez le Baal Shem Tov, il va te répondre. Il est allé chez le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, il a dit, écoute, j'ai pas le temps, je peux pas m'occuper de toi, et il a commencé à partir. Il a traversé le fleuve, et l'autre, il a traversé comme lui. Il s'est arrêté, il lui dit, dis-moi qui tu es, toi. Il dit, pourquoi? Il dit, mais tu viens de traverser le fleuve. Il dit, je ne me suis même pas rendu compte, je t'ai suivi, c'est tout. Vous comprenez le lien? C'est-à-dire, quand tu vis la chose, et pas que tu te dis comme tu viens de te dire. Toi-même, maintenant, tu t'es paralysé. Tu te dis, mais c'est pas possible, on va mourir. Maintenant, tu viens de te dire ça. Donc, en réalité, pour toi, au moment où tu dis ça, ça ne peut pas marcher. Tu ne pourras jamais traverser.
De là que ça vient le fait de dire qu'ils ne sont même pas rendus compte qu'il y avait des miracles. Quand tu le disais, finalement, ils ne se rendaient même pas compte.
Exactement. Exactement.
Et nous, à posteriori, on voit ça.
Ah, mais quand les choses vont arriver et elles arrivent dans la journée, exactement, ne les refute pas.
C'est pour ça qu'on dit qu'il ne voyait pas les miracles. Il le vivait comme le mec qui traverse le
tout à fait. Il dit, mais je vis Dieu. Un enfant, quand je viens d'avoir un enfant, un petit bébé, il y a quelqu'un qui a un bébé ici? Non. Quand vous aurez des enfants, Bezrat Hashem, vous croyez que le bébé, il se pose des questions? Qu'est-ce qu'il va manger tout à l'heure? Comme toi, qu'est-ce que, mince, peut-être que je ne vais pas finir le mois. Tu as déjà vu un bébé À 3 mois, tu te dis, papa, comment on va finir le mois? Ça n'existe pas. Il est tellement dans la émouna pshuta qu'il va manger ce soir. Et ça marche. Tu as déjà vu une manifestation d'abeilles? On veut réussir dans la vie. Qu'est-ce? Ça n'existe pas. Dans pas de cerveau. Il y a un dabour. Un dabour, c'est une grosse abeille, une... Comment on dit en français? Un bourdon. C'est la même lettre. Un bourdon, selon la science, ne peut pas voler. Vous savez ça? Il a les ailes trop petites. Il a le corps trop gros. Et ça ne devrait pas marcher. Comment ça se fait qu'il vole?
Il y croit.
Non, il ne le sait pas. Il n'en a rien à faire, il vole. Il y a des phénomènes comme ça dans la vie, Rabotai.
Et la poule essaie par contre, elle va voler.
Toi, tu devrais vivre naturellement ta vie. Au lieu... C'est ça notre piège. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on est tous soumis à une influence égyptienne, c'est quoi? C'est que la logique, elle te paralyse. Elle te dit, mais attends, je peux pas faire ça. Comment tu veux que je fasse ça? C'est ça, je peux pas faire ça. Je suis limité. Mais quand Israël a passé ce qu'il a passé, qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous, c'est pour ça qu'on a la Torah. La Torah nous raconte cette histoire, ça parle de nous. Eh bien, il y a en réalité un projet dans cette histoire. Il y a une valeur divine à cette histoire. Tu vois que Dieu intervient, qu'il ne m'a pas laissé tranquille mourir en Égypte. Il y a eu une intervention divine, ça veut dire qu'il a un intérêt. Donc s'il a un intérêt et que cet intérêt passe par moi, la preuve c'est qu'il m'a sorti à moi et pas l'autre, c'est que Akadosh Baruch Hu, il m'a créé avec une certaine attente de moi-même. Vous comprenez comment vous commencez à comprendre que vous avez un rôle important et vous vous dites, mais alors mince, je suis important quand même. Akadosh Baruch Hu, il me veut. Il veut mon peuple. La preuve c'est qu'on est entouré de 900 millions d'ennemis. L'État d'Israël, le petit État, la petite cravate que vous connaissez, qui a des bouchons partout tellement on est serré. Eh bien, cette petite cravate, elle est entourée de 850 à 900 millions d'ennemis potentiels. Et pourtant, on est là. Et ils ont peur d'approcher. C'est quoi ça? C'est pas du divin qui nous montre qu'il y a une protection et que ce peuple est voulu parce qu'il a un rôle à jouer? Mais ouvrez les yeux. Mais tout ça, c'est pas juste pour dire, ouais, on est les champions du monde parce que le bon Dieu, il est avec nous, on est dans la même équipe. C'est pas ça, le but. C'est qu'on veut faire élever toutes les nations du monde. On veut leur faire comprendre que ce monde a un sens. Je ne leur montre pas. Je ne suis pas en train de leur montrer un truc. Je suis en train d'élever leur conscience à être éthique, à être droit, à être propre, à être... C'est tout. Je n'ai pas besoin d'eux. Parce que
moi, je m'élève au-dessus de la nature. Je peux très bien faire sans...
La preuve que non. Si tu es resté dans la nature, tu es coincé dans les lois de la nature, comme l'Égypte. L'Égypte, c'est les lois de la nature. Donc tu ne peux pas te dévoiler en tant que peuple. Dis-moi, quand tu t'élèves maintenant... Non, mais écoute-moi jusqu'au bout. Je vais te répondre à ta question. Quand tu t'élèves maintenant, complètement, par ton esprit, ton doigt de pied, il est en train de râler? Pourquoi? Ton doigt de pied, c'est le Japon. Non, ils sont cons. Exactement. C'est tout. Il n'est pas jaloux en te disant « Ouais, moi aussi j'ai envie d'être comme une Neshama, il y en a marre. Moi je suis un doigt de pied. » C'est tout. C'est tout. Et Israël qui est en toi, c'est qui? C'est un Neshama. Le Japon qui est en toi, c'est qui? C'est tes membres. Et la France et l'Italie et tout ce que tu veux. Tu as compris? Quand tu es venu au Machon Meir, c'est un Neshama qui voulait venir, Machon. Et qui t'a aidé? Toutes tes nations. Donc tu as la réponse à ta question? Toutes tes nations du monde qui sont en toi, elles ont joué ton rôle. Et elles sont venues avec toi. Donc tu vas aider toutes les nations du monde à s'élever. Ouleit alot harbe mea lechugateva anafshi veyesara vashpelim. Et donc, les nations du monde vont comprendre qu'il y a des degrés qui dépassent complètement la nature. Et qu'on n'est pas coincé dans un système, qu'on peut faire des choses, qu'on peut faire évoluer, jusqu'à annuler.
Les
vœux. Annuler quoi?
Annuler le raisonnement. Les vœux dans la nature.
Le décret.
Le plus grand, c'est quoi?
Le goy.
Aïe. La mort. Le jour où Israël va montrer qu'en réalité la mort est un scandale et que Israël va être capable d'annuler la mort, c'est ça la formule ultime, c'est d'annuler la mort. Tu vois pas pourquoi? Parce que tu as l'impression que la mort, ça fait partie de la nature. Et moi, je suis en train de te dire que la mort est antinaturelle. Parce que quand Dieu il a créé l'homme, il n'a pas créé pour mourir. C'est parce qu'il a fauté qu'il est mort. Ça veut dire que si un jour j'arrive à changer le système, donc à redevenir dans ma véritable nature, ça ne te fera rien du tout, toi, que la mort est annulée dans le monde. Ça veut dire qu'il n'y a plus de maladie. Mais on s'en fiche, tu es en train de me donner des noms. Je te dis ce qui est possible de faire. Tu es en train de me donner des noms aux choses. C'est possible de le faire. C'est en ça que nous croyons. C'est en ça que nous sommes à Minim Triat Amethim, la résurrection des morts et tout ça, c'est quoi? Ou Bila Hamavet, la Nessa. C'est que nous allons éradiquer la mort. Donc c'est la chose la plus importante qui puisse exister. Et quand Israël va prouver ça aux nations du monde, eh bien, c'est fini. L'histoire humaine, elle atteindra un autre niveau. Ok? Ok?
Israël va passer par des guerres pour arriver à...
Parce que c'est ce que nous avons dit. Quand quelqu'un vient donner une lumière, ça gêne.
Il veut éradiquer la mort, mais il veut aussi dispenser la mort.
Pas du tout. Tu crois que les soldats d'Israël vont pour tuer des ennemis?
Mais ils vont tuer des ennemis qui les attaquent.
Pas du tout. T'as pas fait l'armée?
Non.
Ça se voit. Un soldat d'Israël ne sort pas pour aller tuer des ennemis. Il sort pour protéger son peuple. C'est pas pareil.
Il va tuer.
Et alors? Mais c'est pas le but. Si je te donne un coup de poing, mais je te dis, je suis venu te donner ce coup de poing, tu m'en veux. Mais si je te dis, ah, excuse-moi, qu'est-ce que tu me dis? C'est pas grave. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Tu as le même coup. Tu as la même douleur. L'intention. C'est pas pareil. Quand tu envoies un soldat d'Israël pour sauver ta nation, c'est pas pareil que tu l'envoies pour tuer. Il va pas pour tuer, il va pour sauver. Alors s'il y a des gens qui sont contre la vie, alors c'est vrai, il faut les éliminer, mais c'est pas mon but, ça. Comprenez? C'est énorme, c'est une différence énorme. Tout est au niveau de l'intention. Si tu as mis les tefilines le matin, mais en fait, tu t'es réveillé, dans ton sommeil, tu as mis les tefilines. Tu les as mis? Non. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas conscient. Tu t'es posé sur le mur, Shabbat, tu as éteint toutes les lumières de la maison. Tu as fait une avéra?
Non.
On n'a rien à faire. L'inverse, tu t'es posé, tu as allumé toutes les lumières de la maison. Les gens à côté, ils peuvent profiter de cette lumière? Oui, parce que tu n'as fait aucune avéra. Parce que tu n'étais pas du tout dans ta pensée. Tu vois combien elle est importante, la pensée? Ça change tout, la pensée. La parole que tu dis, c'est une pensée qui parle. Pas des mots qui sortent comme ça. Ça veut rien dire. Et même ce que je viens de faire, c'est la pensée qui lui a dit. Et imagine-toi quelqu'un qui pousse des hurlements et qui n'a aucun sens de ce qu'il dit. C'est un malade. Toi, tu as une pensée parlante. Donc tout est au niveau de la pensée, c'est la chose la plus importante de l'homme. C'est ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, où il veut être. Vechen, on est dans le dernier paragraphe en bas. Vechen kote varav, ala pasuk shalach otot umoftim betoch rechim Mitzrayim, befaro ufchol avadav. Akadosh Baruch Hu, il est écrit dans le verset, il a envoyé des signaux. Il a envoyé des miracles à l'intérieur de l'Égypte, chez Pharaon et chez ses serviteurs. Léodia Ledoro, dit le Rav dans Olot Reaya, pour dire, pour enseigner aux générations suivantes, c'est-à-dire à nous, aujourd'hui, l'école Adoro, à toutes les générations, Mini Azad Henna, depuis que ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui, chez Orlat Leva Adam, que le prépuce du cœur de l'homme, qu'est-ce que c'est le prépuce du cœur? Hein? La clipa, c'est ce qui l'empêche d'être bon. On vous a enlevé tous un prépuce, quand vous étiez à 8 jours. Okay? Qu'est-ce que c'est que ce morceau de chair qu'on vous a enlevé?
C'est ce qui nous
empêche d'être bon. En réalité, c'était une peau qui recouvrait le degré d'Israël qui est en vous. Donc on l'a enlevé. Ça c'est une autre question. À chaque fois que vous ouvrez une porte, vous rentrez dedans les pieds et les mains, on n'en sort plus. Donc si on vous a enlevé ça, c'est pour vous nettoyer. Mais sachez que cette même peau, elle se trouve où? Le même style? Dans le cœur. Et où encore? Dans l'oreille. Orat orlat levavchem orlat haozen. Pour la ta'aïn, il y a plein d'éléments dans ce monde qui ont cette écorce. Et donc, quand vous allez à une Brit Mila, c'est quoi? C'est un restaurant à midi?
Non.
C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais là-bas?
Il
y a fait, mais... Pendant qu'on coupe cette partie au bébé, toi, tu dois avoir la kavana. Akadosh Baruch Hu, nettoie-moi de tout ce qui me dérange. C'est pas, je suis venu, il est midi et demi, chouette, je profite. Il y a des croissants, il y a un petit repas. C'est pas ça. Sinon, ça sert à rien. Quand vous allez à un mariage, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Voir les potes? T'habiller un petit peu? Sortir, déconner? Ouais, c'est super. Tu viens au mariage? Mais tu vas au mariage pour aider le khatan et la kala à coller leur neshamot. Sinon, ça sert à rien. Reste à la maison. Pendant les choupot, il y a 400 personnes, il y a 300 qui sont en train de parler au téléphone ou entre eux. Le rabbin, il est le pauvre avec 50 personnes là-bas autour de lui, ça se passe là, il y a encore. C'est quoi ça? Parce que les gens ne savent pas, on est tombé dans un monde. Moi, je suis là pour vous enseigner ce qu'il faut faire aussi pendant ces moments-là. Tu vas à un mariage, tu te concentres, tu te dis à Kadosh Baruch Hu, je suis venu pour aider mon ami et cette fille à coller ces deux neshamot pour qu'il y ait encore deux puissances dans ce monde qui vont dévoiler ton nom. Mais si tu es pour moins que ça, moi, Yoel, je te dirai ça à la maison, ça sert à rien. La même chose pour aller à la tfila le matin, et à la synagogue, le Shabbat. Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom, il dit, la plupart des hommes rentrent à la synagogue vide et en sortent vide. Rabbi Shimon Bar Yochai. Quoi? Mais pourquoi tu vas à la synagogue? Il y a l'apéritif, il y a le machin. Shabbat, j'ai fait dans la synagogue, il y a une petite de 4 ans qui vient me dire, c'est quand l'apéro? C'est-à-dire pas l'apéritif, pas le kidouche, machin, l'apéro, c'est-à-dire la pauvre. Elle en vieux entend ça. Et j'étais là comme ça en train de prier. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Alors, peu importe, elle a répété ce qu'elle a entendu. Mais, c'est quand l'apéro? Imagine-toi. 4 ans la pauvre. Chez Orlat Leva Adam, donc le prépuce du cœur de l'homme, même que chez Hiba mitoch Zadon Recha shel Geout, bien que ce soit parce que tu es méchant, parce que tu veux, parce que tu es orgueilleux, parce que tu ne veux pas lâcher prise, parce que tu es vexé, parce que tu es jaloux, parce que tu ne veux pas qu'on te batte. Ben Kshéiba mitoch Atimat Lev, bien que tu aies cette écorce parce que tu es complètement bouché, quoi. Tu es un imbécile. En hébreu, metumtam. Ça veut dire bouché. Atum. Ton cœur est fermé, imperméable. Ou praout shel ba'out, tu es comme un animal, en fait. Tu es grossier comme un animal. Tu es un âne, et pire qu'un âne, en forme d'homme. Si tu as ces degrés-là qui te bouchent le cœur, que ce soit pour la première raison ou la deuxième raison, écoute bien ce qu'il te dit. Rien de tout ça ne peut arrêter la lumière divine. C'est-à-dire que tu peux... Les pires choses, les pires écrans ne peuvent rien faire. Tout peut s'ouvrir comme la mer s'est ouverte devant les enfants d'Israël. Quand tu arrives à la fin de quelque chose, tu n'y crois plus. Qu'est-ce que tu dis? C'est la fin, d'accord? Il est arrivé au bout du rouleau. C'est fini. Comment on dit c'est la fin? Ou comment s'appelle la mer qu'ils ont traversée? Yam? Yam Sof. C'est-à-dire ils ont traversé la mer de la fin, c'est-à-dire il est en face de l'eau, il s'en dit, ça y est, on est mort, quoi. Et Akadosh Baruch Hu dit, mais pas du tout. Ça va s'ouvrir, comment ça va s'ouvrir? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ben oui, si tu as cette émouna, il n'y a rien qui peut s'arrêter. Et c'est pas parce que tu as l'impression que tu vas gagner un petit peu moins ici que lorsque tu vas être à Paris comme un coq, à rouler avec une petite décapotable, c'est ça le sens de la vie. Pose-toi la question, c'est Akadosh Baruch Hu veut. Chez l'Oyofia Baolam, personne ne peut arrêter la lumière divine d'apparaître dans son monde. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu met en garde Paro, il lui envoie des signes. Il lui dit, regarde, je vais sauver le peuple qui est juste à côté de toi, il faut que tu le respectes, il faut que tu apprennes à le respecter dans l'histoire. Pas seulement le Paro avec les enfants d'Israël de l'époque. Toutes les nations du monde avec Israël d'aujourd'hui. Zéhara, Vatanina Gadol, et Paro, vous savez comment on l'appelait?
Le grand serpent.
Le grand serpent, c'est-à-dire c'était une forme de vie incompréhensible. C'était une intelligence dans le mal, mais extraordinaire, qu'on ne peut même pas imaginer. Enfin, c'était le Nahash personnifié. Il était très 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 fort dans le mal. Et ce même Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait à la fin de sa vie? Tchouva. Il est devenu le roi de quoi? De Nineveh, de Ninive. Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Si le roi de l'Égypte, le roi de cette nation qu'on a dit qu'elle était sujette à quoi? À la nature, bloquée par la nature, son roi lui-même, il s'en est sorti. Ça veut dire qu'il y a un espoir pour l'humanité tout entière. Vous comprenez? C'est vrai. Partout il y a des sacrifices pour arriver à quelque chose. Il y a des sacrifices. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Même la guerre pour l'indépendance de l'État d'Israël, il y a des sacrifices. Asher amar li yehori ve'ani atitini. Vous savez ce que disait le pharaon de lui-même? Le Nil est à moi, et moi, je me suis fait. Je me suis auto-fabriqué. C'est-à-dire il s'est passé pour un dieu. Et Moshe allait le voir le matin très tôt parce qu'il faisait ses besoins. Donc il était accroupi, et Moshe lui dit, oh Pharaon, je croyais que c'était un dieu. T'as pas honte? Ça pue là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, s'il te plaît, ne dis pas que tu m'as vu. C'est la honte. Comme ça, nous dit les Chachamim. C'est-à-dire, il était bloqué dans son système de la nature. Alors que le peuple d'Israël, par exemple, juste comme ça en passant, parce que j'ai rappelé ce genre d'exemple, pendant toute la période du désert, 40 ans, n'ont jamais vu des toilettes. N'ont jamais été aux toilettes. Vous saviez ça? À tel point que les anges et les gens autour disaient « Keisad machnissim ve'einam motsi'im » Comment est-ce possible de manger et de ne rien sortir? Comprenez pas. Et c'est pour ça que ça s'appelait la manne, lechem abirim, chez nivla ba'evarim. C'était un pain qui était absorbé par tous les membres. Donc il n'y avait pas de déchets. Voilà. Ça, c'est la nation d'Israël. Ça, c'est une nation qui est accompagnée par l'éternité. Si ça se passe avec une nation, tu te dis, mais alors on est sauvé. On n'a qu'à juste dire à Israël, vas-y, joue ton rôle. Eh bien, c'est ce que les nations du monde vont faire à la fin. Elles vont dire à Israël, écoutez, on a tout essayé, il y a tout qui se casse la figure. On n'en peut plus. Il y a le corona d'un côté, le machin de l'autre, le truc de... Alors, on n'a jamais essayé avec vous. Allez-y, faites ce que vous deviez faire. Faites-nous venir votre Mashiach, sauvez le monde. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on va rentrer en jeu. On a tout essayé, on n'en peut plus. On est mort, on est cuit. Allez-y, faites. Qui a dit ça? Pourquoi je vous dis que c'est possible? Parce que c'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Le Pharao et tous ses esclaves à la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allez-y, on n'en peut plus, on a essayé de vous arrêter, mais c'est pas possible. Allez-y, faites ce que vous avez, et s'il vous plaît, ou berachtem gam oti, bénissez-moi, c'est-à-dire rattachez-moi à vous. Qui a dit ça? Paro lui-même! C'est pas extraordinaire à votre taille? Vous comprenez la leçon que vous êtes en train de tirer de ça?
Il a reconnu Hachem en fait.
Parfait. Donc si Paro c'est le maître du monde, si Yitro, c'est le maître de toutes les Avodot Zarot, les deux, ils ont fait Tchouva. Tu veux me dire qu'aujourd'hui, c'est pas possible? C'est possible. que l'histoire va se répéter. C'est tout. Quel?
Donc qui a choisi quand il les a livrés?
Qui?
Qui avait les libre-arbitre quand il les a livrés à la France?
Il y a toujours. Enfin, il y a Kshé et Libo pour justement être toujours dans le libre-arbitre, à chaque instant. Donc il lui endurcissait. Pourquoi il lui endurcissait le cœur?
Le Rambam, il ne dit pas qu'il avait plus de...
Réponds-moi. Pourquoi il lui endurcissait le cœur?
Pour le garder le libre-arbitre.
Exactement. Parce que au moment où tu reçois une Tréha, tu sais ce que c'est une Tréha? C'est un grand coup qui vient d'en haut. T'as le libre-arbitre ou pas? Non, t'as plus, parce que t'as peur. Alors qu'est-ce qu'il faisait à Kadosh Baruch Hu? Il lui disait, c'est pas grave, t'as reçu une bonne année, mais maintenant je vais t'endurcir le cœur pour que tu restes encore dans ton choix. Donc il lui augmentait la possibilité de choisir. Quand ça va mal dans les pays où il y a des juifs, il faut que ça aille où en même temps?
Chez nous.
En Israël. Pourquoi?
Parce qu'il faut qu'on soit pareil que les autres. Pour
non. Pour que les juifs qui veulent faire leur alia, ils aient encore le libre arbitre. Parce que s'il se dit, tiens, ça va mal en France, ça sent très très mauvais, mais en Israël tout va bien, c'est facile à monter. Mais quand ça va mal dans le monde, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que ça aille mal ici pour que le petit juif là-bas, qui avec sa valise toujours posée, levée, selon ce qui se passe, il se dise, mais attends, je vais quitter ici, mais regarde là-bas ce qui se passe. Je ne suis même pas capable de faire un gouvernement, ça fait un an et demi, que tu veux que j'aille faire là-bas, mais c'est fou. C'est exactement ça. Rabotai, je vous donne des clés pour la vie. Quelle?
Il y a aussi une signification de la manière où les, quand ils sont arrivés à la fin, justement, devant Yam Souf, Hachem, il a décidé d'ouvrir la mer. Il aurait pu décider de... Voilà, eux, ils ont plein d'émouna, ils sont confiants sur le fait qu'ils peuvent dépasser la nature. Donc ça, voilà, ils marchent sur l'eau comme le Baal Shem Tov. Pourquoi on a choisi cette manière-là de séparer les eaux plutôt que de les laisser voilà, marcher sur l'eau il y a plein d'autres...
C'est une très très bonne question. C'est ce qui ne va pas se passer à la fin des temps. C'est-à-dire, ce qui s'est passé dans la sortie d'Égypte, la nature a été en fait vexée. Oui. Parce que l'eau, sa nature, s'est coulée. T'as envie qu'il passe, et bien qu'il me passe par-dessus. Pourquoi tu es obligé de me changer ma nature? Donc la nature s'est vexée. Et qu'est-ce qu'elle a dit à Dieu? Je comprends pas, moi tu m'as créé comme ça et tu m'as donné un changement de nature. Je ne suis pas d'accord. Et Dieu promet à la nature qu'à la fin des temps, il n'y a rien qui changera. Tout sera naturel et il y aura la Géoula dans la nature. Tu ne verras plus des eaux qui s'ouvrent et tout ça. Justement pour ça, c'est pour ça que les gens qui ne comprennent pas le miracle qui s'est passé à Yom HaAtzmaout, parce qu'ils attendent une délivrance qui est du même style que la sortie d'Égypte, mais ce n'est pas le cas. Ça va être des miracles qui vont être cachés dans la nature. Donc ta question, elle est excellente. « Uvechol avadav hagoy achomri, asher basar chamorim besaram » Donc ils peuvent être ce qu'ils veulent avec une chair d'âne, une peau d'âne. Les Égyptiens, comme ça c'est marqué. Asher besar chamorim besaram ve zirmat susim zirmam. Je ne veux même pas rentrer dans les détails tellement c'est horrible. Okay, je ne vous traduis pas. Mais ça veut dire que ce sont des êtres de la grossièreté la plus basse qui puisse exister dans le genre humain. Et plus bas même que l'homme. Velibam orla mi belilirot et azohar anifla. Et donc, ils ont un cœur tellement hermétique, tellement fermé, qu'ils ne peuvent pas voir l'éclairage de Dieu, le Zohar. Shel Dvar Hashem ou Gvurat Yemino. Ils n'arrivent pas à voir la main droite qui fait nos guerres. Aujourd'hui, les gens qui ne prennent pas conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a fait arriver à notre état, tout simplement parce qu'ils ne disent par exemple pas le Hallel le jour de Yom HaAtzmaout, c'est une méconnaissance. C'est-à-dire, c'est un refus de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est associé à ce qui s'est passé. Tout simplement, on est d'accord, hein? T'es pas capable de remercier Dieu, ça veut dire que t'étais pas associé à ça. Mais si tu es assez aveugle pour arriver à cette conclusion-là, tu es très malade. Vous avez conscience que c'est Dieu. Il a dit tout à l'heure, qui nous a fait arriver là où on est. On n'aurait rien pu faire, donc il était actif, très actif. Dans toute cette délivrance. Beshne hasugim halalu, on termine. Baou à Otod va mostim le achni à Zadon Geoutarisha. Donc Akadosh Baruch Hu, peu importe, il va s'occuper de tous. Que ce soit ceux qui sont bouchés parce qu'ils sont tellement grossiers, que ce soit ceux qui sont méchants volontairement, Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître de ce monde. Donc sa création, il ne va pas la rater. Ça va réussir. Que ce soit de force ou de gré, à la fin, sa lumière va rentrer dans le monde, va pénétrer, va changer toutes les données. Donc il vaut mieux être dans son équipe. Les Asira Ivaron, et la première des choses qu'on vous demande, vous, nous, les élèves d'Akadosh Baruch Hu, les fils d'Akadosh Baruch Hu, l'épouse d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'arrêter d'être aveugle. Ouvrez les yeux. Arrêtez de faire les aveugles. Arrêtez de fermer vos yeux comme si non, ça, c'est pas possible. C'est des religieux sionistes. Bon, c'est normal. Ils parlent comme ça parce qu'il est au Machon Meir. Je parle pas comme ça parce que je suis Machon Meir. Je parle comme ça parce que je suis convaincu de cette Torah. C'est tout. Je suis convaincu de l'influence de Dieu dans mon histoire. C'est tout. Partout où il y a du Ashgachat pratique, sauf dans les choses qui ne t'intéressent pas. Arrête d'être aussi faux. Si tu as une Ashgachat pratique, même au niveau de ta propre vie privée, tu ne penses pas qu'il y a une Ashgachat pratique au niveau de toute la nation. Non mais vraiment, il faut arrêter. Donc arrêtez d'être aveugle. Arrêtez d'être grossier. Arrêtez d'être des sauvages qui ne comprenez pas avec votre finesse d'esprit qu'Akadosh Baruch Hu est en train d'intervenir dans notre histoire. Ouvrez les yeux. Toda Rabba.
Verset
dans Ishaïa, on ne sortirait plus dans le kipazon comme on est sorti d'Égypte, mais on va sortir, si on lève l'Ismechem Hashem, un système Elohim Israël, où c'est rassemblé petit à petit, tout va être dans la nature.
Dans quand est-ce qu'il faut douter et quand est-ce qu'il ne faut pas douter?
Douter de quoi?
Par exemple, le Baal Shem Tov, il traverse directement. Mais nous aussi, on doit se poser des questions. Le doute, on doit faire bonne épêche ou on doit...
Non, c'est pas ça des doutes, ça c'est pas les doutes. Faire bonne épêche, c'est de faire en sorte de comprendre pourquoi tu doutes. C'est ça le problème. À partir du moment où tu doutes, c'est que t'es malade.
Mais le Messie d'Israël, il dit aussi qu'il faut douter pour réfléchir.
Ah bon?
Douter? Il faut réfléchir avant de
douter.
Pas
du tout. Zeyrout, il t'a pas dit Atatachliot Besafek, Khazbekhali, là où j'avais une chose pareille. Ne transforme pas les paroles du Rampal. Sinon il va se mettre en colère. Hein,
c'est justement
pour
mettre en question.
Réfléchir.